Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Voici la parole que Paul adresse à ses chrétiens de Colosse. Il dira ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Il y a une somme d'informations que l'apôtre nous donne dans ce passage. Mais nous allons nous attarder pour une première fois aujourd'hui sur ce qu'il dit. Il dira, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. La première pensée que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celle-ci, être rendu capable. D'où la question que j'aimerais que l'on puisse se poser avant de pouvoir aborder ce thème ensemble. Quelle est la nature de notre vie chrétienne? Quelle est la nature de notre vie chrétienne? Est-ce une vie naturelle? Même si nous la vivons sur la terre, ma vie chrétienne est-elle naturelle? Ou ma vie chrétienne est-elle surnaturelle? Voilà là une question que nous pouvons nous poser. Et de cette question, de la réponse que nous allons donner, cela nous amènera à réaliser comment le Seigneur a agi dans nos cœurs, dans nos vies. Déjà, quand nous considérons la conversation que Jésus a eue avec Nicodème, dans Jean au chapitre 3, verset 6, cet homme est venu vers Jésus et il lui a posé des questions. Mais il y a de cette conversation une phrase qui a retenu mon attention. Jésus va faire comprendre à cet homme Nicodème la nature de la vie avec Dieu. Il dira ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire de l'esprit de Dieu, est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Si ma vie chrétienne, ça a été un effort personnel, donc ça restera naturel. Mais si je réalise que ma vie chrétienne a été l'œuvre de celui qui a livré à la croix, là je réalise que même si je suis sur la terre, même si je suis humain, même si je suis dans ce corps de chair, je vis une vie qui n'est pas naturelle, mais je vis sur la terre une vie surnaturelle. Parce que c'est une vie qui vient de Dieu, c'est une vie qui nous a été procurée par l'Esprit de Dieu. Paul va le confirmer. Alors qu'il s'adressait aux Éphésiens, l'apôtre montre comment ces chrétiens étaient éloignés de Dieu. Il dira, autrefois, vous étiez morts par vos offenses. C'est ce que nous étions, nous aussi. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions éloignés de Dieu. Et il dira, nous vivions selon la nature de la chair, nous marchions autrefois selon le prince de ce monde, nous étions par nature enfants de colère. Mais l'apôtre utilise cette phrase pour faire une corrélation. Il dira, mais Dieu qui est riche Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, la suite, s'il vous plaît. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus. Il nous a rendus à la vie. Nous a rendus vivants avec Christ. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous qui étions morts. L'apôtre confirme que la vie chrétienne, celle que nous menons, après avoir accepté l'œuvre de Christ à la croix, après avoir accepté qu'il demeure en nous, après avoir accepté qu'il façonne nos vies, nos cœurs, après avoir accepté que Jésus devienne le maître de notre vie, la vie que nous menons en Christ est une vie surnaturelle. C'est donc une vie surnaturelle, la vie chrétienne, qui découle de la grâce de Dieu à cause de notre confiance en Christ. À cause de cela même, il est nécessaire, frères et sœurs, et c'est ce que nous allons aborder tout à l'heure, il est nécessaire que le croyant se rende compte de son besoin, de la capacité de Dieu pour vivre dans la victoire. Il nous a rendus à la vie, chose que nous étions incapables de faire, chose que nous n'avions aucune force, aucune capacité. Je ne pouvais pas revenir à la vie par moi-même. Je n'avais aucun pouvoir, aucune capacité de transformer cette vie de mort, cette vie de péché, en une vie pleine de grâce, seulement que par la puissance de notre Seigneur. En s'adressant aux chrétiens de Colosse, l'apôtre leur parle de cette œuvre puissante et bienveillante de Dieu à leur égard. Quand nous considérons de près cette action de Dieu, nous nous rendons compte, vous savez qu'elle n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à tous les hommes qui, par la foi, croient en l'œuvre de Christ à la croix. Lorsque Paul va prononcer ces paroles, nous pouvons lire les versets qui précèdent pour comprendre ce que Paul veut dire par là. Paul, dans les versets qui suivent, qui précèdent déjà, réclame pour ses chrétiens des grâces précieuses. Et pour les versets suivants, il parle des immenses bienfaits que le croyant doit avoir. Et toutes ces choses-là, les grâces qu'il demande, il demande au Seigneur, il dira, voilà, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Voilà la prière que l'apôtre adresse à Dieu pour ses chrétiens. Et toutes ces choses-là doivent embraser le cœur du croyant, embraser le cœur de nos cœurs pour nous amener à apporter à notre Dieu la reconnaissance. C'est au regard de ce que le Seigneur a fait que Paul dira de rendre grâce à Dieu. Oui, de rendre grâce à Dieu pour toute l'œuvre de transformation qu'il a opérée dans nos cœurs, dans nos vies. Rendre grâce. Cela doit embraser nos cœurs d'une vive reconnaissance pour ce Père. Et ce nom doit le rappeler à tous chrétiens, tout ce que nous trouvons en lui. Vous savez, rendre des pauvres pécheurs capables d'avoir part à l'héritage des saints, telle est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. telle est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et c'est ce que le Seigneur désire faire encore aujourd'hui. Dieu veut que des hommes et des femmes soient puissamment visités, transformés. C'est pour cela que nous prêchons le message de l'Évangile. Et je me souviens de ce que l'apôtre Paul va dire. Et cette parole, elle réjouit mon cœur à chaque fois quand je prêche l'Évangile. Parce que Paul va montrer vraiment la puissance du message de l'Évangile. Il dira, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance. C'est quelque chose qui échappe à l'entendement humain. C'est quelque chose qui dépasse la capacité des hommes. Et c'est quelque chose, voilà, qui vient et qui brise le pouvoir du péché. C'est quelque chose qui détruit tout ce que le diable a comme emprise sur nos vies. Le message de l'Évangile, c'est un message percutant. C'est un message qui transforme. Et si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, ce message a trouvé écho. Il nous a transformés. Et nous avons été éclairés par la lumière de Dieu. Être rendu capable. Une œuvre de foi. Vous savez, dans son évangile, Jean identifie Jésus comme étant la véritable lumière. Et il va montrer la transformation qu'elle opère dans le cœur de ceux qui la reçoivent et qui croient. Il dira ceci au verset 12, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, être rendu capable. Autrefois, alors que nous étions enfants de colère, le Seigneur, par sa puissance, nous a transformés et nous sommes devenus, par sa grâce, des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Quelle grâce! Voilà quelque chose qui réjouit mon cœur. Voilà quelque chose qui doit réjouir notre cœur, quelles que soient les circonstances, quand nous voyons la transformation que le Seigneur a opérée dans nos cœurs pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Frères et sœurs, et je me dis à tout moment, quel que soit ce que je peux vivre, quelles que soient les difficultés que je rencontre, je me dis, je me dois de regarder à la puissance de Dieu qui a transformé ma vie. Et si le Seigneur, par amour, m'a transformé, il a changé ma vie, il a bouleversé ma vie. Si le Seigneur, alors que j'étais sur une voie de perdition, il m'a arrêté dans ma folie, il m'a fait connaître, comprendre son amour, s'il a donné un sens à ma vie, qu'est-ce que les difficultés à côté? Sans minimiser les difficultés, je me dis, Seigneur, si tu as le pouvoir de changer ma vie, si tu as le pouvoir de m'amener à reprendre le droit chemin pour emprunter le chemin de la vie, combien plus forte raison tu as aussi le pouvoir de transformer les situations, les difficultés par lesquels je passe. Cela m'amène, frères et sœurs, à toujours avoir mes yeux vers celui qui peut tout. Il nous a rendus capables. Frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons retenir pendant ces quelques minutes-là, c'est ça. Il nous a rendus capables. Ce Dieu-là, qui a livré sa vie à la croix pour faire de nous ses enfants. La mission de Jésus est d'apporter aux hommes la puissance de transformation qui leur est quasiment impossible à leurs yeux. si après, cette, après avoir été loin de Dieu, après que je me sois détourné de Dieu, si j'étais dans la capacité de revenir à Dieu, si j'avais à mon pouvoir cette possibilité-là de me frayer un chemin à Dieu, Jésus serait-il venu pour livrer sa vie pour moi? Si j'avais une puissance quelconque, la croix ne serait pas dressée pour tous les hommes, pour vous et pour moi. C'est parce que Dieu lui-même a trouvé impossible aux hommes de se refrayer ce chemin qu'il a placé devant nous cette puissance-là pour nous ramener à lui. Et cela nous amène, frères et sœurs, chaque jour à demeurer dans l'humilité. Parce que si je suis ce que je suis, je le dois à mon Père. C'est pour cela l'apôtre dira, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à ce... Il dira, mais rendez grâce au Père. Ah, j'aime ce nom. Rendez grâce au Père. Parce que veut le Père si ce n'est le bien de ses enfants? Que veut un Père si ce n'est le bonheur de ses enfants? Que veut un Père si ce n'est de voir ses enfants s'épanouir? Si ce n'est de voir ses enfants se réjouir? Et c'est ce que Dieu veut pour ceux et celles qui ont accepté. Il le veut déjà pour tous les hommes. Mais il le veut pour ceux et celles qui ont saisi la grâce et qui veulent marcher d'une manière qui lui plaise. Cette puissance de transformation, elle s'opère dans la foi et par la foi à celui qui détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Souvenons-nous de ce que Jésus va dire à ses disciples. Avant de donner cette mission d'évangélisation, Jésus va d'abord dire à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et à cause de cela même, parce qu'il détient le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer cette puissance-là, ce pouvoir-là à ses disciples. Et il dira, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est parce que lui l'a d'abord reçu en lui-même, parce qu'il l'a reçu du Père. Et parce que le Père l'a envoyé, et voulant aussi envoyer ses disciples, il leur communique la puissance. Alors frères et sœurs, ne soyons pas dans l'abattement. Non seulement, oui, nous avons été transformés, mais le Seigneur nous communique une puissance. Non pas pour que nous soyons supérieurs hommes ou que nous soyons vus des hommes, mais pour que nous accomplissions l'œuvre de notre Dieu. Tout pouvoir m'a été donné. Et à cause de cela même, il leur rend capable. Il leur rend capable d'accomplir une mission qui n'est pas naturelle, mais qui est surnaturelle. À cause de sa délivrance, Paul dira, rendez grâce à Dieu, au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. À cause donc de cette délivrance-là, où se trouve maintenant le croyant? Où se trouve le chrétien? Où se trouve l'enfant de Dieu? Autrefois, souvenons-nous, nous étions enfants de colère, nous étions dans un autre royaume, dans ce royaume de colère, dans ce royaume de péché, dans ce royaume qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais à partir du moment où le Seigneur, par sa puissance, nous a rendus capables de participer à sa vie, où se trouve le croyant, si ce n'est de réaliser que nous sommes maintenant, à cause de sa délivrance, dans le royaume de Christ et sous sa loi. Nous sommes dans le royaume de Christ. Nous sommes dans le royaume. Paul dira, il nous a rendu capables d'avoir par l'héritage des saints, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter. Ah, j'aime cette action. J'aime cette action. Il est venu nous extirper de cette puissance qui nous tenait, de cette puissance qui nous empêchait de vivre et dont malheureusement encore un plus grand nombre aujourd'hui sont liés par cette puissance-là. Le monde aujourd'hui est toujours sous la puissance-là qui empêche les hommes de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Le diable s'acharne à maintenir les hommes sous sa puissance. Ce n'est pas que ce que Jésus a accompli n'est pas d'actualité aujourd'hui. Ce qu'il a accompli il y a plus de 2000 ans est toujours d'actualité. Il advient aux hommes. Comme Jean va le dire, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. J'aime ce qui a été dit tout à l'heure, le Seigneur ne nous force pas, il ne fait pas de forcing aux hommes. Il tend la main. Il tend la main. Et quand la main de Dieu est tendue, il s'attend à ce que librement. Ruben, tu peux venir s'il te plaît. Viens, viens, viens. Vous savez, quand je tends la main, lui, attends. Quand je tends la main, il a deux choix. Soit comme cela, il reste ça. Soit, voilà, il tend la main. Je ne le force pas. Est-ce que je t'ai forcé à tendre ta main? Ah non. Tu as été libre de tendre ta main. Ah, libre de son choix. C'est bien, Ruben, que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Libre de son choix. C'est bien dit, hein? Libre de son choix. Les hommes sont libres de leur choix. On est libre de nos choix. Tu es là ce matin. Sache que tu es libre de tes choix. Le Seigneur ne te force pas. Mais le Seigneur voudrait simplement t'amener à comprendre ce qu'il a accompli et la grâce qu'il donne à ceux et à celles qui se confient en lui. Oui, il y a cette puissance de transformation qui libère les hommes de leur captivité. À cause de cela, je disais, le Seigneur nous a transportés dans son royaume. Et nous sommes désormais sous sa loi. Regardez ce que l'apôtre va dire dans son épître aux Romains, chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset suivant. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset suivant. Car lorsque nous étions esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelle glorieuse espérance! Quelle espérance! Esclaves du péché et maintenant esclaves de Dieu. Quel silence, hein? Esclave de Dieu. On n'aime pas trop ce mot. Esclave. On n'aime pas trop ce mot. Parce que ça nous renvoie à une image de soumission. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur attend de ceux qu'il a délivrés? Si ce n'est de se soumettre à lui, si ce n'est de se livrer volontairement. Cette soumission, vous savez, elle ne nous empêche pas de vivre. Hein. Au contraire, en nous soumettant à Dieu, c'est là que nous nous épanouissons le plus. C'est là que nous vivons mieux. C'est là que nous goûtons au plaisir d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a que le Sauveur qui peut donner à des pauvres pécheurs qui par nature étaient enfants de colère le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là la preuve de l'amour de Dieu. C'est là la preuve de l'amour de Dieu. Transformer des hommes pour faire de ses enfants. Il nous a rendus capables de devenir ses enfants. Nous avons donc été sauvés d'un royaume rebelle pour servir un royaume de justice. C'est pour cette raison que nous devons montrer par notre vie et par notre conduite que nous servons un autre maître. Quand Paul utilise des expressions comme autrefois, il fait référence à la vie ancienne, à la vie passée, à cette vie de soumission, non pas à Dieu, mais à l'ennemi de nos âmes. Mais il utilise aussi d'autres mots comme « mais » ou « maintenant » pour nous faire réaliser le parcours par lequel le Seigneur nous a fait passer, le cheminement que nous avons pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Autrefois enfants de colère, mais maintenant enfants de Dieu. Autrefois servant l'ennemi de nos âmes, où nous servons nous-mêmes. Parce que comme Paul va le dire aux chrétiens d'Éphèse, voilà, nous marchons selon nos propres principes. Mais maintenant, dira Paul, nous servons le Dieu vivant et vrai. À cause de cela même, nous nous rendons compte qu'être rendu capable, c'est ce qui démontre que les hommes ont besoin de Dieu et qu'en croyant, tout leur est possible. Voilà ce qui montre que, aux yeux de Dieu, il est inacceptable de vivre sur cette terre sans faire cas de lui, sans faire cas de celui qui veut le bonheur des hommes. Et je dirais même, il est inacceptable pour le croyant de vivre comme bon lui semble. Il est inacceptable de vivre comme bon nous semble. Paul dira, est-ce que vous pouvez remettre le verset de Romains 6, s'il vous plaît? Avant cela. Voilà. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, écoutez bien ce que Paul va dire, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il y a des principes que le Seigneur a mis en place pour ceux et celles qui lui appartiennent. Des règles que l'enfant de Dieu doit accepter. Mais quand on déroge à ces règles, il y a des conséquences. Quand on ne suit pas ce que le Seigneur dit, nous ne devons pas nous étonner des conséquences qui s'en suivent. Malheureusement, parfois, le chrétien essaye, tout en se disant chrétien, de mettre en place ses propres règles. Dieu a dit, mais, oui, mais, il y a ce que Dieu a dit, mais je vais quand même essayer. Ça ne marche pas. Vous savez, j'ai essayé comme cela. J'ai essayé. Et je le dis à ma honte. Hein. J'ai essayé de me faire croire qu'à un moment donné, je pouvais contourner les règles. Jusqu'à ce que je me casse le nez et que je réalise que si j'obéissais, j'éviterais bien des souffrances, bien des difficultés. Alors, nous rendons compte que on ne peut pas envisager de vivre loin de celui qui peut nous rendre capables. Et pour le chrétien, on ne peut pas imaginer car nous avons besoin du Seigneur pour nous rendre capables en tout point dans notre marche avec lui. David avait compris. Il avait compris qu'il se devait de marcher avec le Seigneur. Vous savez, dans le combat qu'il menait avec Goliath, c'était un combat spirituel. Même s'il le combattait dans la chair, c'était tout de même un combat spirituel. Et frères et sœurs, rappelons-nous encore, étant dans ce corps de chair, nous menons des combats. Il y a des luttes, il y a des épreuves, il y a des difficultés, des choses qui viennent à nous. Paul dira aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres. Il y a ce combat dans lequel nous nous sommes engagés, un combat spirituel. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et David avait compris. Lorsque Goliath outrageait le nom du Dieu Tout-Puissant, bien qu'il soit puissant, David, parce que souvenons-nous, il dira, alors que je menais le troupeau, lorsque le lion ou l'ours venait, Qu'est-ce qu'il faisait David? Il arrachait la gueule et il prenait ce qui était à lui, qui était à lui. Mais quand il était face à Goliath, ce n'était pas avec cette force-là qu'il est parti. Parce qu'il savait, David, que s'il le faisait, automatiquement, c'était sa défaite. Et malheureusement, c'est ce que bon nombre d'entre nous veulent faire. Il y a des combats que nous voulons mener avec nos propres forces. Et ça ne marchera pas, frères et sœurs. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin que celui qui nous a rendu capables de passer d'enfant de colère à enfant de Dieu, nous avons besoin qu'il soit avec nous en toutes choses. Et David, il avait compris quand il, dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47, regardez ce qu'il va dire. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et j'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni, voilà, et j'aime ça, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il vous livre entre nos mains. Quel encouragement, frères et sœurs, quel exemple nous devons tirer de ce jeune homme David. En réalisant, en disant ceci, hein, ce n'est pas nous qui combattons, c'est l'Éternel. Si toutefois nous acceptons de marcher selon ses règles et de savoir qu'il nous donne la victoire. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est que nous marchons de victoire en victoire. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous croulons tous les jours sous le poids des difficultés, des situations qui nous empêchent de vivre. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, réalisons que c'est le Seigneur qui combat pour nous. Et n'envisageons pas de lutter par nous-mêmes. Car dira, comme David le dit, la victoire appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Et j'aime ce que le psalmiste dira au psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermée pour toujours. Ce qui se confie, parce qu'il s'est confié en l'Éternel, David devant Goliath n'a pas chancelé. Alors que, Saül lui-même étant roi, Saül même tremblait, toute son armée tremblait devant une seule personne. Mais David, ayant placé sa confiance, il s'est tenu fermement. Parce que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, il a remporté la victoire. Parce qu'il, je termine, parce qu'il nous a rendus capables, frères et sœurs, nous devons de combattre avec la force de Dieu qui agit puissamment en nous. C'est ce que Paul va dire aux Colossiens, chapitre 1, verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. sa force, la force du Tout-Puissant, la force du Seigneur, en combattant. Ne combattons pas, frères et sœurs, par nos propres forces. Ce serait la défaite assurée. Mais quand nous combattons avec sa force, il nous rend capables. Il nous donne d'être vainqueurs. Il nous donne de triompher. Et ça nous rappelle à quel point nous avons toujours besoin de notre Seigneur. Ça nous montre à quel point tous les jours, nos yeux doivent toujours être fixés sur lui. Et chaque jour, nous avons besoin de cette force-là, frères et sœurs, de cette force surnaturelle qui vient du Saint-Esprit pour nous rendre capables de résister face à la tentation, de résister face aux forces du mal qui nous entourent et nous assaillent. Et cette capacité fait de nous également des témoins efficaces pour le Seigneur. Avant de retourner au ciel, Jésus dira à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Rendons grâce donc à celui qui nous a rendus capables et qui veut nous rendre capables encore aujourd'hui. Il nous a rendus capables et il veut nous rendre capables. Voulons-nous accepter, frères et sœurs, parce que nous avons accepté qu'il nous rende capables d'être, de passer d'enfant de colère à enfant de lumière, mais dans notre marche avec Dieu, dans notre cheminement, parfois, nous l'empêchons qu'il nous rende capable en toutes choses. Que le Seigneur nous aide, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes. Oh, combien nous avons besoin, non pas de combattre avec notre force, mais comme Paul va le dire, avec sa force qui agit puissamment en nous, parce que sinon, de vous à moi, quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, si nous voulons aller en disant « c'est nous », c'est la défaite. Mais jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit en nous. De chaque jour de dire « Seigneur, dans ma marche avec toi », après avoir réalisé que je ne vis plus pour moi-même et que je vis pour toi, Seigneur, après avoir réalisé que ma vie ne m'appartient plus, mais que ma vie t'appartient, Seigneur, ma prière est que chaque jour, Seigneur, tu m'aides à prendre ces armes-là, cette force. Parce que oui, le Seigneur veut nous aider dans nos luttes, dans nos combats. Mais la puissance que le Seigneur nous donne, c'est plus que cela. C'est pour que nous puissions nous aussi être ses témoins à sa gloire. L'Esprit de Dieu a été donné d'abord pour un seul but, le but premier, que nous soyons des témoins du Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je relis ce que l'apôtre va dire. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. » Nous verrons prochainement, Dieu voulant, ce qu'est cet héritage dont le Seigneur nous a rendus capables d'avoir part. Mais déjà là, nous avons pris la température de cette transformation que le Seigneur a opérée, de cette puissance qui est venu nous percuter pour changer nos vies et pour nous faire paraître devant lui, non plus comme des enfants de colère, mais comme des enfants de lumière. Que Dieu soit béni. On prie Dieu. nous nous rendons compte tout à nouveau, Seigneur, que nous ne pouvons pas, Seigneur, dans notre marche avec toi, lutter avec nos propres forces. Mais comme Paul va le dire, nous voulons combattre avec ta force qui agit puissamment en nous. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Quelles que soient les difficultés que nous vivons, Seigneur, nous ne voulons pas faire face par nos propres forces. Mais nous voulons, Seigneur, que tu interviennes. Tu connais les besoins. Tu connais, Seigneur, les situations par lesquelles plusieurs passent, et même en ce moment même. Seigneur, parce que tu as déployé toute ta force pour nous arracher des griffes de l'ennemi de nos âmes, parce que tu as déployé toute ta force pour nous arracher de la puissance des ténèbres et nous transporter dans ton royaume de lumière, à cause de cela même, Seigneur, nous réclamons cette même puissance au quotidien dans nos vies. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, donne-nous de réaliser à quel point nous avons besoin de toi. Étends ta main sur chacun, sur toutes ces situations, Seigneur. Et ce que nous voulons est que, en agissant par ta force toute puissante, ton nom soit glorifié. Ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Que les hommes puissent réaliser à quel point ils ont besoin de toi. Seigneur, sauve autour de nous. Par ta puissance, ramène des âmes de la mort à la vie. Par ta puissance, brise l'orgueil. Par ta puissance, Seigneur, brise, Seigneur mon Dieu, la dépendance, Seigneur mon Dieu, en nous-mêmes. Nous voulons dépendre de toi. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, agis encore. Relève, Seigneur. Oui, nous voulons vraiment que ton nom soit glorifié. Bénis encore, Seigneur, cette fin de journée. Et nous remettons cette semaine à venir. Il y aura certes des luttes. Il y aura, Seigneur, des embûches. Seigneur, il y aura peut-être des tentations qui se présenteront à nous. Mais nous voulons faire face non pas par nous-mêmes, mais en comptant sur toi. Seigneur, reçois toute notre reconnaissance. Oui, reçois notre reconnaissance parce que tu as transformé nos vies. Et nous voulons, Seigneur, que jusqu'à ce que tu reviennes, nous demeurions toujours attachés à celui qui nous a aimés et qui nous donne de triompher tous les jours. À toi seule la gloire. Amen.